Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, tous les jours de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons sélectionnés pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Alors cet après-midi, on va commencer par s'intéresser aux problèmes de croissance des enfants. Comment savoir si son fils ou sa fille est dans la norme et si justement il est trop petit pour de multiples raisons? Comment se traitent les troubles de la croissance actuellement? On vous dira tout ce qu'il faut savoir. Mais avant ça, pour démarrer cette émission, un sujet passionnant, vous allez l'entendre, comment rester jeune à l'intérieur de son corps, mais aussi en apparence, pour vous livrer tous les secrets de la jeunesse. Il était notre invité avec son programme anti-âge basé sur du scientifique et rien que du scientifique. C'était le professeur et chirurgien Jean-Paul Méningo.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Professeur Jean-Paul Méningo, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes chef de service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au CHU Henri Mondor et vous êtes surtout, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, l'auteur du livre Le programme anti-âge du professeur Méningo, qui est donc disponible sur Amazon. Alors professeur, on va détailler tout ça juste après, mais d'un point de vue général, puisqu'on parle aujourd'hui de vieillissement, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit et c'est quoi les principales théories sur notre vieillissement finalement?
Alors il y a plus d'une centaine de théories, mais je vais essayer de résumer.
Le plus simplement.
Voilà, le plus simplement, même si on devait résumer à une seule, c'est vraiment le stress oxydant. Et ce qui se passe dans les cellules ont des organes, comme nous avons des organes, et dans la cellule, il y a des organes qu'on appelle les mitochondries, qui sont les cellules, les organites à énergie, qui provoquent de l'énergie dans la cellule, et qui provoquent énormément d'oxydants.
On rouille de l'intérieur.
Voilà. Et c'est à ce niveau-là que donc, se fait cette production d'oxydants qui ensuite va provoquer des dommages au niveau de l'ADN, de l'ARN, enfin de toutes les molécules, et y compris des membranes de la cellule.
Jimmy ?
Donc on rouille tous, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter en tout cas ou limiter ?
Alors il y a des personnes qui sont plus dotées que d'autres, qui ont un système génétique antioxydant plus performant que d'autres.
Ça, c'est moi, par exemple. Et vous, Jimmy, par contre, c'est la suite. Alors, allez-y, docteur.
Et puis, par le comportement, par l'alimentation, éventuellement par des compléments alimentaires ou voire même des médicaments, on peut freiner cette oxydation.
Est-ce que le fait que l'espérance de vie ait beaucoup, beaucoup augmenté ces dernières années, ça a vraiment accentué l'envie de la population de lutter, de rester jeune et beau le plus longtemps possible? Ça joue beaucoup?
Oui, parce que à la fois l'espérance de vie a augmenté comme jamais, quoiqu'elle a un tout petit peu reculé en 2015, ça avait été très étonnant. Mais en fait, on vit de plus en plus d'années en mauvaise santé. Et donc, les gens veulent bien vivre vieux, mais à condition d'être en bonne santé, de pouvoir justement profiter de la vie.
Jimmy.
Et vous dites justement qu'on peut gagner 10 ans d'espérance de vie en évitant 7 péchés capitaux. Si on doit commencer par les 3 premiers, lesquels il faut éviter? Et surtout, est-ce qu'on est sûr que ça marche?
Alors, le tabac, on est toujours perdant.
Il n'y a même plus besoin d'argumenter.
Besoin d'argumenter, c'est écrit sur les paquets, c'est même plus dangereux que certains virus, vous voyez ce que je veux dire. Donc là vraiment, à tous les coups, on perd. Donc ça, c'est vraiment le premier. Sinon,
alcool, stress.
L'alcool, en fait, provoque énormément de dommages, de cancer. Et puis aussi, ce qu'on appelle une hyperœstrogénie. Donc, on a tendance à avoir trop d'œstrogènes dans le sang.
Mais ça nous fait vieillir, certes, on est en mauvaise santé, mais ça nous fait vieillir.
Ça augmente l'inflammation, provoque indirectement de l'hypertension et surtout des cancers, malheureusement, dès le premier verre. Après, ça peut être légèrement compensé par les bénéfices cardiovasculaires. Donc, le conseil, c'est quelqu'un qui n'a jamais bu de ne pas commencer, et quelqu'un qui boire du très bon vin, mais très raisonnablement.
Jimmy.
Le soleil aussi, un faux ami finalement. On aime bien avoir ce teint bronzé à la rentrée, mais il faudrait éviter.
Le sommeil, il faut faire très attention, mais en même temps, il ne faut pas s'en priver complètement. Les zones où il faut s'en priver, à mon avis, c'est le visage et le dos des mains, parce qu'elles sont trop exposées. Donc là, il faut vraiment utiliser des crèmes solaires. Et actuellement, il y a des produits extrêmement performants. C'est vrai que c'est très technologique, la crème solaire.
On pense évidemment au cancer de la peau, mais ça fait vieillir vraiment la peau.
Ça fait vieillir,
on a l'air plus vieux quand on a pris trop le soleil.
Ça fait vieillir. Paradoxalement, on parle beaucoup des UVA, mais ce sont surtout les UVB, mais ce sont surtout les UVA qui font vieillir et qui abîment donc le collagène, donc qui lie les cellules entre elles. Et puis en plus, donc, il y a des risques de cancer, de mélanome, carcinome basocellulaire et spinocellulaire, c'est les 3 principaux.
Jimmy ?
Vous dites aussi qu'il faut bouger, évidemment, on sait tous qu'il faut faire du sport, mais est-ce qu'il y aurait des sports qui seraient peut-être un peu mieux pour essayer de limiter le vieillissement?
Alors, hélas, non. L'erreur, c'est par exemple de faire que du cardio training.
Du footing.
Je vois des gens qui font... Alors, on sait qu'au bout de plus de 3 heures de cardio training ou 3-4 heures, c'est délétère. On augmente le risque de troubles du rythme et donc on diminue son espérance de vie. Donc, ça ne veut pas dire que les autres jours, il ne faut rien faire, mais c'est le moment de faire des exercices de souplesse, du yoga, de l'équilibre.
Donc, trop de footing, ce n'est pas bon pour l'organisme. Vous aviez raison, en fait, Jimmy, finalement.
Il faut faire de la musculation aussi. La musculation est très importante, surtout à partir d'un certain âge, pour éviter les fractures, travailler sa posture, travailler ses réflexes.
De la musculation, ça aide à garder des os jeunes?
Oui, parce que donc en fait, il y a un couple entre l'os et le muscle, et plus les muscles stimulent l'os et donc permettent de garder le capital osseux. À partir de 50 ans, on perd des muscles. Donc si on ne fait pas un travail de musculation, on perd son capital.
Alors professeur, à présent, on va passer au contenu de notre assiette. Vous allez nous aider à bien choisir ce qu'on met dedans, finalement, quand on est soucieux, en tout cas, de son apparence, de sa santé. Je crois que d'abord, vous dites le café, oui, mais pas n'importe lequel.
Le café, en fait, a vraiment montré son efficacité. C'est un produit extrêmement bizarre parce qu'il est brûlé, il est torréfié. Et pourtant, il contient énormément d'antioxydants et encore plus que le café vert. Donc les études montrent qu'il est vraiment bénéfique pour la santé sur énormément de paramètres de santé. Par exemple, la souplesse des artères, la tolérance au sucre. Après, il ne faut pas effectivement abuser parce qu'il y a quand même beaucoup de caféine. Et donc on peut effectivement, à partir d'une certaine dose déjà, on n'aura plus les effets, y compris sur le parce que souvent on le prend pour être en forme, parce qu'on a sommeil, etc. Donc on n'aura plus les effets, on n'aura que les inconvénients.
Jimmy ?
Il y a autre chose que je ne connaissais pas qui s'appelle le Rooibos. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Alors, le Rooibos, c'est ce qu'on appelle aussi le thé sud-africain. Ce n'est pas du thé d'ailleurs, c'est une autre plante et c'est une bonne alternative. Le thé est extrêmement bénéfique pour la santé, tout comme le café. Et en fait, le problème, c'est que dans le thé aussi, il y a de la caféine. Et donc, le soir, ça peut être une bonne alternative parce qu'il y a aussi beaucoup d'antioxydants sans la caféine.
Donc, il y a des antioxydants, donc anti-vieillissement. Anti-vieillissement, hein, c'est ça, hein, toujours la ligne à suivre. Alors, plus surprenant, vous conseillez la camomille. Moi, je croyais que c'était juste pour dormir. Mais là, vous le conseillez pour rester jeune et en bonne santé.
La camomille, elle est légèrement sédative. Elle permet de digérer. En Espagne, par exemple, c'est très fréquent, en fin de repas, le soir, de prendre une camomille. C'est presque un rite. Et il y a dedans un composé, la pygénine, qui empêche ce qu'on appelle l'aromatisation de la testostérone. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, la testostérone peut se transformer en œstrogène, ce qui peut provoquer des cancers de la prostate, etc. Et dedans, il y a un composé qui empêche cela. Donc c'est une bonne possibilité, y compris pour les femmes, parce que les femmes ont besoin aussi, pour la libido, d'avoir un minimum de testostérone.
Bon, Jimmy, une petite camomille avant de dormir et tout ira bien.
Bah pourquoi pas? Et on a souvent parlé du lait en bien ou en mal. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le vieillissement dans un sens comme dans l'autre?
Oui, le lait est toujours très déconseillé dans les milieux anti-âge. Donc moi, je me suis beaucoup penché là-dessus. Moi-même, je partageais un peu ces opinions. Il y avait eu des études qui montraient une corrélation avec le cancer de la prostate. Mais corrélation ne veut pas dire cause à effet en science. Et là, les dernières études montre pas de corrélation, montre même une corrélation inverse, c'est-à-dire que ce serait même plutôt bénéfique. Donc c'était sous-tendu par des arguments assez logiques, parce que dedans il y a un produit qui ressemble à l'hormone de croissance, donc qui pouvait faire croître les cellules cancéreuses, mais dans les faits ça n'a pas été vérifié dans les dernières études. Dans mon livre, vraiment, à chaque fois, je justifie avec des études cliniques.
Bien sûr. Contre le vieillissement, vous proposez aussi plutôt les smoothies à la place des jus de fruits. Pourquoi? C'est mieux?
Oui, parce que en fait, ça permet vraiment d'avoir tout le bénéfice du fruit. Dans le jus de fruits, bon, il y a forcément beaucoup de sucre, de fructose, il y a quelques vitamines, mais si on peut en plus avoir les fibres, ça va avoir un effet énorme sur le microbiote intestinal, toute la flore intestinale, permettre sa diversification, et donc on aura vraiment les bénéfices du fruit entier. Donc je conseille soit le smoothie ou alors le jus de fruits, mais il faut remettre la pulpe, si on prend un jus d'orange, remettre la pulpe dans le jus.
Je crois que vous allez faire des heureux. Apparemment, le chocolat, c'est un bon outil.
Je suis sûr que ce n'est pas la pâte à tartiner dont vous parlez. Hein. C'est le chocolat en morceaux.
C'est le chocolat au minimum 70%, voire un petit peu plus. C'était un aliment béni des dieux, puisqu'il avait été découvert par les Mayas. Ils l'utilisaient dans des cérémonies. Après, ça a été repris par les Aztèques. D'ailleurs, le mot chocolat vient de chocoalt, qui est un terme aztèque. Et effectivement, il a énormément de bénéfices. D'une part, il y a du magnésium. Il y a énormément de gens carencés en magnésium. Je crois qu'on est au moins 20% de personnes carencées en magnésium. Il y a une molécule qui ressemble à un antidépresseur. Et puis, il y a un composé, je donnerai juste l'acronyme, c'est le PQQ, qui permet de multiplier le nombre de mitochondries dont je parlais au début de cette émission.
Ça nous fait rajeunir, alors.
Donc, voilà. Donc, ça permet d'avoir moins d'oxydation par mitochondrie. Voilà. Mais il ne faut pas abuser. La dose qui a été estimée, c'est 30 grammes. Donc, ça veut dire le tiers d'une tablette de 100 grammes.
Bon, ça va, le tiers. On n'est pas sur un petit carré. En général, ils nous disent tous, les médecins qui passent sur ce plateau, un petit carré par jour, pas plus.
Plus sympa, vous.
Vous êtes généreux.
Un peu plus sympa.
Une dernière question.
On entend beaucoup ces dernières années qu'on consomme trop de viande. Est-ce que vous pensez que les régimes végétariens, à la place finalement de la viande, pourraient être intéressants?
Je suis pas du tout opposé au régime végétarien. Le régime végétarien ne pose aucun problème parce qu'il y a justement des produits tels le lait, les œufs souvent, le fromage qui permettent de compenser un certain nombre de choses. Après, il faut faire attention. Les régimes végétaliens, là, il faut être vraiment affûté. Il faut vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment s'intéresser intellectuellement à la chose parce que sinon, on peut être très vite carencé. On s'en rend pas compte au début, surtout quand on est jeune. On peut résister quelques années et après avoir des problèmes. Concernant la viande, je pense qu'il faut la limiter. Autant prendre des bons produits, mais vraiment limiter la consommation de viande.
Professeur Méningo, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Jean-Paul Méningo. Vous êtes chef de service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au CHU Henri Mondor et l'auteur du livre Le programme anti-âge du professeur Méningo, qui est donc disponible sur Amazon. Alors, professeur Méningo, dans votre programme anti-âge, qui propose une prise en charge globale de notre santé pour un bien vieillir, aujourd'hui, on aborde juste quelques points de votre programme, mais il est question notamment du sauna et du hammam.
Oui.
C'est bon, ça, pour nous, je crois que vous préconisez l'un, mais pas l'autre.
Ah non, j'ai pas de...
Ou l'un plus que l'autre.
Moi, je préfère le sauna parce que je préfère la chaleur sèche. Quoi,
mais en termes de vieillissement...
Des gens qui rajoutent de l'eau sur les pierres. Non, je pense que les deux font bien transpirer. L'intérêt, c'est qu'on peut considérer que la peau est le troisième rein, en quelque sorte, parce qu'elle permet l'élimination de beaucoup de toxines. Là, la toxine qui nous intéresse, c'est le sel. Et donc, il y a des études qui ont montré vraiment une augmentation de l'espérance de vie. Donc, évidemment, dans les pays où ça se pratique le plus, en Finlande, en Suède, moins de maladies cardiovasculaires, probablement par l'élimination du sel par le sauna.
C'est intéressant, Jimmy.
On cherche toujours à prendre des compléments alimentaires en pensant qu'on va avoir plein de vitamines, mais peut-être qu'il faut être prudent et vous dites attention peut-être aux polyvitamines.
Oui, parce qu'en fait, on risque de prendre déjà des composés dont on n'a pas besoin. Par exemple, du fer, si on est anémié, c'est très bien, mais sauf que ce ne sera pas assez dosé. Donc il en faudra beaucoup plus et sinon ça rouille donc on prend des pro-oxydants en fait, donc il faut faire attention parce que en fait on va prendre quelque chose soit inutile soit éventuellement délétère. Donc la bonne recette, c'est de faire une analyse de sang et puis voir quelles sont les carences réelles et à partir de là de complémenter de façon ciblée et ensuite surtout, et c'est ce qu'on oublie le plus, de réévaluer. C'est-à-dire de refaire une prise de sang pour vérifier. Et quelquefois, on a des surprises, notamment avec la vitamine D, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez complémenté.
On a parlé là des compléments alimentaires, mais il y a aussi toutes ces hormones anti-âge, comme la DHEA. On en parle peut-être un peu moins maintenant, mais on en parlait beaucoup il y a quelques années. Ça a un intérêt ou pas contre
la
le
vieillissement ? La DHEA, c'est un outil qu'utilisent les médecins anti-âge, mais il faut qu'il soit appuyé vraiment sur une analyse de sang bien ciblée. Ça pose un petit problème quand on en donne, c'est qu'on ne sait pas après comment... Parce que c'est en haut de la chaîne et on ne sait pas quelle hormone ça va donner. Est-ce que ça va donner des œstrogènes, de la testostérone ? Donc, parce que c'est tout en haut de l'arbre.
Donc ça ne se fait pas à l'aveugle.
Voilà, donc il faut, on peut l'utiliser, mais à ce moment-là, il faut, parce que quelquefois, on peut avoir, en fonction de son patrimoine génétique, des réactions inappropriées.
C'est-à-dire ?
Donc, par exemple, on le donne pour avoir un petit peu plus d'oestrogène, pour ne pas prendre de traitement hormonal substitutif, puis ça va se transformer en testostérone ou l'inverse. Donc, on ne peut pas prévoir, et donc on peut éventuellement le faire, mais il faut vraiment vérifier ce que l'on fait
avec
des
un
prises
médecin.
De sang. Ouais. Ouais.
Jimmy ?
On cherche toujours aussi à acheter des crèmes anti-rides.
Surtout
anti-âge.
Vous, oui, je sais, vous en avez plein à la maison.
Ma femme veut que j'en mette parce qu'elle me dit que j'ai l'air épuisé par le temps.
Pourquoi pas ? C'est pas interdit.
Mais est-ce qu'elles sont efficaces ? Est-ce que plus c'est cher, mieux c'est ?
Il y en a tellement.
Alors, plus que cher, mieux c'est, donc certainement pas. Parce qu'à partir d'un certain niveau, on va acheter la marque ou une molécule un peu médiatisée, mais qui ne passera pas la barrière cutanée. Cela dit, maintenant, il y a des produits qui marchent vraiment.
Alors, on ne donne pas de marque,
vous inquiétez pas.
C'est ceux qui contiennent
mais
quel type de molécules.
Mais je donne juste l'idée. Ouais. L'idée générale, c'est d'appliquer le matin un sérum antioxydant. Ce qui marche bien actuellement, ce sont les, il y a plusieurs marques, ceux qui contiennent de la vitamine C stabilisée. Dessus, il faut mettre une crème hydratante. Donc les crèmes, il faut prendre celle qui vous plaît. Hein. C'est, toutes les crèmes sont des émulsions d'huile et d'eau. Après, il y a des pourcentages différents en fonction de votre type de peau.
Celle qui nous plaît, qui laisse la peau bien souple.
Que vous aimez, pour son parfum, etc., ouais. Sa texture, donc celle qui vous plaît. Et surtout, il faut qu'elle ait quand même une protection contre les UV, UVA, UVB. Même en hiver, il faut qu'il y ait une protection contre les UVA, notamment. De cette crème. Donc ça, c'est ce que je conseille le matin.
Et donc, c'est finalement contre les rides, quand on parle de crème anti-rides, vous conseillez plutôt une espèce de routine qui n'est pas forcément une crème spéciale anti-rides.
Ça va avoir vraiment un effet anti-rides.
Sans acheter la crème anti-rides la plus chère
si
du marché.
Si vous prenez le sérum, plus la crème hydratante, plus l'anti-UV, je vous garantis. Regardez les mains d'un golfeur, un golfeur professionnel, vous verrez que la main qui ne porte pas le gant, elle est beaucoup plus jeune que l'autre.
Ah oui, c'est intéressant. Jimmy, vous, les deux mains, c'est pareil. Hein, vous ne faites pas de golf.
Le savon sur le visage, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut nettoyer le visage
tous les jours? Il faut éviter parce que en fait, le savon va modifier le pH de la peau. Et donc, votre peau, elle met à peu près 5 heures pour se rétablir. Donc, il faut privilégier les eaux micellaires ou les laits en fonction de ses goûts.
Dans cette émission, on rit beaucoup. Vous l'avez remarqué. Moi, j'ai entendu dire que les gens qui riaient, qui souriaient beaucoup, paraissaient plus vieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que rire, ça va nous faire des rides ou pas?
Non, pas du tout.
On peut continuer à rire.
Oui. C'est même le contraire. La plus grande pharmacie qu'on puisse trouver, c'est notre propre cerveau. Quand vous riez, vous produisez des tas de bonnes hormones dans l'hypothalamus, l'épiphyse, l'hypophyse. Donc le rire, c'est, je dirais que dans mon livre, c'est même le premier conseil.
D'accord. Et juste vos conseils, alors on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais vos conseils, on les commence à quel âge? Si j'ai 50 ans, est-ce que j'ai encore le temps de les mettre en œuvre ou pas?
Il est toujours temps, quel que soit l'âge. On a même fait des expériences, hein, des vraies expériences sur même des centenaires, hein, où on a obtenu des bénéfices.
On peut rajeunir à 100 ans.
Oui. Mais par contre, plus vous commencez tôt, mieux c'est, parce que vous allez augmenter votre capital.
Merci beaucoup, professeur Méningo, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci Mélanie, merci Jimmy.
Quelques clés de votre programme anti-âge. Donc, le livre, on le trouve sur Amazon, le programme anti-âge du professeur Méningo. Et on va tenter de les suivre, vos conseils pour rester en forme et bien dans nos baskets le plus longtemps possible. Merci.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur une intervention, l'ablation des amygdales. On aime bien vous éclairer sur ces gestes chirurgicaux qui peuvent effrayer un peu quand même quand on ne les connaît pas bien. Alors, savez-vous justement comment cette chirurgie se déroule? Quelles sont les indications et les suites de cette intervention? Benjamin Lévesque, a été testé vos connaissance sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Pour moi, les amygdales sont des glandes qui servent un petit système immunitaire, je pense.
Ça doit servir pour gérer l'ingurgitation des aliments, l'eau.
C'est dans la gorge et c'est des choses inutiles.
Quand on fait des angines à répétition, il faut les enlever. C'est quand elles sont un peu trop gonflées.
J'imagine qu'on passe par la gorge et puis qu'on supprime les amygdales. Je pense pas qu'il y ait spécialement d'ouverture locale extérieure.
Je pense que l'opération doit être faite sous anesthésie générale, enfin j'imagine, j'espère. Je pense qu'on doit opérer en coupant l'amygdale ou alors une petite partie de l'amygdale pour enlever le surplus.
Plus on le fait tardivement et c'est plus compliqué déjà en termes de douleur au niveau de l'opération. Il faut aller voir un ORL du coup pour se faire opérer des amygdales.
Alors je me demande si un stomatologue peut pas faire ça.
Bon Jimmy, alors d'abord peut-être on va faire un petit peu de physiologie, je sais que vous adorez ça. On va démarrer, vous allez nous expliquer déjà où se trouvent précisément les amygdales et à quoi elles servent finalement dans l'organisme.
Alors les amygdales sont au fond de la bouche, parce que vous avez des amygdales aussi dans le cerveau, elles ont une autre
c'est
fonction.
C'est pas celle-là qu'il s'agit.
On appelle ça des organes lymphoïdes, en gros elles ont un rôle dans l'immunité.
Un peu comme les végétations dont
on
a parlé il y a quelques temps.
C'est des organes lymphoïdes, donc ils ont un rôle dans l'immunité, ils jouent la fonction de filtre. Sauf que parfois, le filtre est trop gros, trop encrassé, vous avez des amygdales qui sont trop grosses, vous faites des infections à répétition, et donc dans ces cas-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, les amygdales réduisent de volume, puisque vous rencontrez de moins en moins d'infections nouvelles, et donc vous avez moins besoin de stimuler ces amygdales, raison pour laquelle on opère plutôt les enfants que les adultes.
Alors justement, parlons de cette opération donc chez les enfants, plutôt pour les enlever. Je crois que les indications pour décider de pratiquer cette intervention sont plus réduites aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Quand on décide de le faire, c'est pour quelle raison aujourd'hui?
Alors, il y en a deux principalement. La première, tout le monde la connaît, c'est quand on fait des angines à répétition. Si vous faites plus de 7 épisodes dans une année, on peut vous retirer les amygdales, même si parfois on a tendance à temporiser, à voir, parce qu'il y a angine et angine. Mm-hmm. Si vous faites une angine qui dure 2-3 jours, c'est pas la même chose s'il y a une semaine d'absentéisme scolaire avec des antibiotiques.
Cette angine dans l'année, ça fait beaucoup.
Là, c'est pas le problème. Ou si vous en faites plus de 5, 2 années de suite. Donc ça, c'est l'ORL qui décide. Et attention, la pharyngite, l'infection de la du pharynx, n'est pas une indication. Et puis, vous avez l'apnée du sommeil, puisque lorsque les amygdales sont trop grosses, elles empêchent l'air de passer. Votre enfant peut faire des pauses respiratoires la nuit.
Et ça ronfle.
Ça ronfle. Et surtout, ça s'arrête de respirer. L'enfant a un sommeil agité. Il a des sueurs nocturnes. Et puis, le matin, il est irritable. Parfois, il a des troubles du comportement. Il est agité, il est fatigué. Ou il a une respiration buccale. Et donc là, c'est un des critères qui fait qu'on enlève les amygdales chez les enfants.
D'accord. Donc, les deux principales indications, on va dire. Comment ça se passe rapidement, l'intervention?
Alors, sous anesthésie générale, on en fait moins qu'avant. On était quasiment à 70 000 par an dans les années 2000. Et on stabilise à 35 000, puisqu'on a réduit cette intervention. Ça dure entre 30 minutes et 1 heure. On peut être hospitalisé un jour en fonction de l'âge. Les tout petits, moins de 3 ans, on a tendance à les garder un petit peu plus longtemps. Mais sinon, ça se fait en ambulatoire et les suites sont plutôt simples, même si parfois c'est douloureux.
Oui, parce qu'il faut quand même le dire, ce n'est pas une intervention anodine. Hein,
exactement. Le principal risque, c'est le risque hémorragique. On sait qu'il est estimé à 1% le premier jour et souvent, il vient dans les 8 heures qui suivent l'intervention. Et puis, vous avez un deuxième risque hémorragique qui survient entre le 8e et le 15e jour et il est estimé entre 1 et 3%. Et puis enfin, la douleur après l'intervention, c'est très douloureux. Oui, donc, et donc, on vous donne des antalgiques, vous mangez des glaces, c'est sympa. Mais les adultes qui se font opérer, en général, en gardent plutôt un très mauvais souvenir.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Mélanie Amouyal. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris en cabinet et à l'hôpital Robert Debré. Et avec vous, on va parler de la croissance des enfants aujourd'hui. Alors on va parler peut-être du début déjà. Et un enfant à la naissance, il fait en moyenne 50 cm. Alors chez les Jimmy Mohamed, chez les Mohamed, peut-être ils sont plus grands, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est la taille moyenne d'un enfant. Est-ce qu'il y a des enfants, après on sait qu'il y a des petits, des plus grands, est-ce qu'il y a des enfants qui dès la naissance ont un problème de croissance? C'est possible ou est-ce que c'est quelque chose qu'on détecte plus tard?
Oui, alors c'est possible. C'est ce qu'on appelle des retards de croissance qui peuvent être détectés même sur les échographies. C'est un des paramètres qu'on surveille pendant la grossesse. Et donc, c'est possible. Il y a des enfants qui peuvent avoir des retards de croissance, soit d'une pathologie de l'enfant ou d'une pathologie maternelle comme une hypertension ou des problèmes vasculaires.
Jimmy ?
Alors un enfant, ça grandit vite. Je pense que même Mélanie aurait pu constater ça. Mais...
Moi, je n'ai pas grandi. Je me suis arrêtée vite.
Mais ça grandit très vite durant les deux premières années. Combien de centimètres un enfant prend au tout début, enfin dans les premières années?
Oui, c'est ça. En fait, il y a 4 phases au niveau de la croissance. Donc la croissance fœtale qui est la plus rapide, 50 centimètres à peu près en 9 mois. Et pendant les deux premières années, on grandit encore très vite. 25 centimètres en moyenne la première année et 12 la deuxième année. Et puis ensuite, ça se régularise beaucoup. C'est beaucoup moins vite, quoi, de 4,5 cm à 6 cm par an pendant toute l'enfance jusqu'à la puberté où là de nouveau il y a un pic de croissance avec une vitesse de croissance plus importante.
Alors jusqu'à 2 ans on le sait, on va en tout cas au moins tout petit bébé jusqu'à 1 an on y va tous les mois, on pèse, on mesure son bébé, on a compris l'intérêt, mais à partir de 2 ans on va dire et quand ils sont un peu plus grands, tous les combien, est-ce qu'il convient d'ailleurs de faire surveiller cette croissance très régulièrement? Si oui, à quel rythme, jusqu'à quel âge?
Alors, il faut que ce soit surveillé pendant toute la croissance, donc jusqu'à la fin de la croissance, et au moins une fois par an. Si jusqu'à l'âge de
2, jusqu'à...
Oui, c'est ça, jusqu'à 2-3 ans, un peu plus souvent. On va espacer, au début, on va y aller tous les mois, après tous les 2-3 mois, tous les 6 mois. Et à partir de 2-3 ans, tous les ans, c'est bien. Tant qu'il n'y a pas de soucis, parfois il y a besoin d'y aller un petit peu plus souvent.
Jimmy ?
Et parfois, c'est compliqué pour les parents de se retrouver. Est-ce que mon enfant grandit suffisamment ou est-ce qu'il prend suffisamment de poids ? Il faut tout simplement peut-être regarder la courbe de croissance. Je crois que les valeurs ont été un peu modifiées. Il y a eu une explication à ça ?
Oui, c'est ça. Les courbes de croissance ont été réévaluées et ont changé dans les carnets de santé en 2018 parce que les courbes qui figuraient avant étaient des courbes qui étaient anciennes, qui dataient des années 70 et qui avaient été faites seulement sur des enfants de la région parisienne. Donc, on savait que ça ne représentait pas vraiment tous les enfants français. Donc, ça a été réévalué.
À la hausse, je crois que nos enfants sont plus grands que les enfants des années 70.
Alors, ils sont un petit peu plus grands dans l'enfance. Le pic de croissance pubertaire est en fait un peu plus étalé, un peu moins important. Les tailles finales ne sont pas très, très différentes.
D'accord, mais nos enfants sont un petit peu plus grands. Et en plus de ce suivi chez le pédiatre, vous disiez donc une fois par an à peu près de 2 ans jusqu'à la fin de la croissance. Est-ce qu'à la maison, ça vaut le coup de... Moi, je sais qu'on a une petite toise. Alors, de temps en temps, ils aiment bien qu'on aille mettre un petit trait chez les Gomez, en tout cas. Mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut le faire de mesurer aussi à la maison un petit peu les enfants de temps en temps? En oui, dehors de l'amusement, je veux dire.
Oh, je pense qu'une fois par an, ça peut suffire, parce que surtout que les toits ne sont pas les mêmes à la maison, chez le pédiatre, etc. Après, oui, je pense que pour les enfants, ça peut aussi être important de le faire de temps en temps sans en faire quelque chose de trop important.
Pas une fixette non plus. Jimmy ?
Je constate souvent, à ma grande déception, que les carnets de santé ne sont pas remplis au niveau de la courbe de croissance et on me dit, mais le pédiatre ne l'a pas fait. À qui doit le faire ? Le médecin ou le parent qui a le droit de prendre aussi un papier, enfin un petit crayon et mettre des petites courbes ? Est-ce que c'est vraiment important d'ailleurs d'avoir cette courbe de croissance ?
Oui, alors la courbe de croissance effectivement est très importante pour évaluer les choses. Le pédiatre, en fait maintenant de plus en plus on a des logiciels dans lesquels nous on fait la courbe de croissance et c'est vrai que peut-être du coup on reporte un petit peu moins les points sur la courbe qui est dans le carnet de santé. En revanche, normalement c'est écrit. À chaque visite, on écrit la taille. Donc oui, les parents peuvent tout à fait la faire eux-mêmes dans le carnet de santé avec les données qui sont notées.
Puisqu'on parle de la base, donc autour de la croissance des enfants, je crois qu'il y a différents facteurs qui influencent cette croissance. La génétique, bien sûr, des parents grands en général et ont des enfants grands. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs qui l'influencent. Lesquels ?
Oui, alors donc les facteurs qui sont propres à l'enfant, c'est effectivement la famille, la taille des parents, l'ethnie et puis la taille à la naissance qui va aussi jouer par la suite. Et puis après, il y a tous les facteurs extérieurs, donc la nutrition.
La taille à la naissance, ça veut dire quoi ? Qu'un bébé qui faisait 42 ou 44 cm à la naissance, il sera forcément petit adulte ?
Il ne sera pas forcément petit adulte, mais on aura une vigilance un peu plus importante pour ces enfants-là parce qu'on sait qu'il y en a un certain nombre, oui, qui vont rester un peu petits et on en reparlera plus tard ou qu'il peut y avoir une indication au traitement par hormone de croissance pour cela.
Et vous disiez le sommeil aussi, peut-être pour les enfants, ça joue ?
Le sommeil, oui, ça joue. Alors, l'hormone de croissance, elle est produite de façon plus importante pendant le sommeil, en fait, pendant certaines phases de sommeil. Donc, c'est vrai qu'un sommeil de bonne qualité, c'est important.
Est-ce que le problème de croissance peut révéler un autre problème secondaire ou ça peut être juste isolé, on a un problème de croissance parce qu'on a un problème de croissance.
Alors les deux sont possibles, effectivement, quand on fait des bilans, quand on pense qu'il peut y avoir un problème au niveau de la croissance, on fait d'abord un bilan général pour effectivement détecter un problème autre qui pourrait avoir pour retentissement une anomalie de la croissance. Et après, il y a des anomalies spécifiques de la croissance.
Et à présent, on va passer donc aux troubles de la croissance avérés chez les enfants. Justement, j'imagine que des parents qui arrivent dans votre cabinet avec un enfant, alors j'imagine le plus souvent qu'on pense trop petit, je pense que c'est le motif peut-être principal,
oui,
non,
de consultation. Oui,
ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Et est-ce qu'ils ont vraiment des problèmes de croissance, ces enfants-là ?
Alors déjà, il y a deux types de consultations. Il y a les parents qui consultent d'eux-mêmes et il y a ceux qui sont envoyés par leur pédiatre. Alors, c'est vrai que les enfants envoyés par le pédiatre, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été détecté en amont. Donc, je vais être un peu plus amenée à faire des bilans. Quand les parents amènent l'enfant, voilà, quelquefois, c'est juste pour être réassurée, pour qu'on leur explique.
Et la petite taille, c'est vraiment le motif principal. C'est mon fils, c'est plus petit que les autres, ou ma fille.
Vous voulez dire dans les consultations d'endocrinologie ?
Quand ils viennent, les parents avec des enfants comme ça, une inquiétude, c'est souvent à cause d'une petite taille.
Oui, enfin, c'est pas le seul motif, mais c'est un motif très fréquent. Oui,
j'imagine qu'on consulte pas parce que son enfant est trop grand ou le plus grand de la classe.
Alors, ça arrive, mais beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a un moyen simple qu'on peut utiliser pour savoir combien pourra mesurer notre enfant, un petit calcul, parce que c'est le rêve de tous les parents.
Ouais. On m'avait dit à 2 ans, on multiplie par 2, mais je crois que c'est faux.
Alors oui, non, ça marche pas. C'est très difficile, même pour nous, avec plusieurs paramètres, de pouvoir déterminer la taille à l'âge adulte, parce qu'il y a plein de choses qui vont influer. Donc forcément, plus on s'approche de la fin de croissance, et plus on va pouvoir l'estimer. Alors nous, les repères qu'on a pour savoir si la croissance d'un enfant est normale, c'est donc les courbes de croissance. Donc dans un premier temps, est-ce que l'enfant grandit régulièrement ? Est-ce qu'il suit régulièrement une ligne, un couloir sur la courbe de croissance ? Et la deuxième chose, est-ce que c'est à peu près en rapport avec sa taille cible génétique ? Donc la taille cible génétique, c'est un calcul qu'on fait avec la taille des parents.
Expliquez-nous lequel.
Il apparaît maintenant sur les nouvelles courbes de croissance. Donc c'est la taille du père plus la taille de la mère, plus 13 pour les garçons, moins 13 pour les filles, divisé par 2.
D'accord, la taille du père, la taille de la mère, on ajoute ces deux-là, on ajoute plus 13 si c'est un garçon, moins 13 si c'est une fille, et
on divise par 2.
Et on divise par 2, très bien. Et on a la taille.
Voilà, donc ça c'est pas la taille que fera l'enfant, mais c'est un repère qu'on utilise. L'enfant est censé arriver à peu près dans cette taille-là, et donc on regarde si sa croissance actuelle est à peu près en rapport avec ça ou pas. Parce que forcément, si les parents sont plus petits, on s'attend à ce que l'enfant soit un peu plus petit.
D'accord. Alors pour les autres qui sont quand même plus petits, enfin pour les enfants qui sont plus petits que les autres, mais sans que ce soit pathologiques, on va dire, puisque vous en renvoyez pas mal chez eux en disant finalement tout va bien. Est-ce qu'il y a quand même des choses, alors là on est hors du pathologique, qui peuvent permettre à des enfants de grandir plus vite, je sais pas, faire des étirements, faire du basket, est-ce que ça fonctionne ou pas?
Alors non, au niveau du sport pas vraiment. Après oui, il y a des conseils en fait qui sont des conseils qu'on pourrait donner un peu à tous les enfants, qui sont d'avoir une bonne hygiène de vie, donc de bien dormir, d'avoir une alimentation équilibrée, suffisante, variée, avec une petite attention particulière sur les apports en calcium, tous les produits laitiers qui sont importants pour la croissance, et supplémentés de façon épisodique en vitamine D.
D'accord, ça c'est la base pour bien grandir.
Le
on va
sport
dire.
De façon modérée, pas de sport trop intensif. Voilà.
Ça peut casser la croissance, ça peut un peu couper la...
Certains sports, vraiment de façon très intensive.
Pas... Jimmy, ça vous risquez rien, vous allez grandir encore longtemps.
Exactement, j'aurais pas de problème à ce niveau-là. Une fois que vous suspectez un problème de croissance, je suppose que vous prescrivez des examens complémentaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme examen en routine?
Alors, on fait un bilan biologique de base, donc un bilan général, on le disait tout à l'heure, pour éliminer une prise de sang dans laquelle il y a à la fois rechercher une pathologie générale, certains dosages hormonaux. Et puis, on peut faire une radio de la main gauche qui s'appelle la radio d'âge osseux, qui nous donne une idée du potentiel de croissance.
Et elle montre quoi cette radio? Alors par exemple un enfant, je dis n'importe quoi, un petit enfant de 6 ans, vous allez regarder son âge osseux, et vous allez voir qu'il n'est pas en adéquation. Par exemple, il peut avoir un âge osseux de combien? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette radio très concrètement?
Alors en fait, on regarde s'il y a un décalage avec l'âge, ce qu'on appelle l'âge civil de l'enfant. Ce paramètre en fait tout seul n'est pas très pertinent. Après, c'est un faisceau d'arguments avec le bilan biologique, la clinique qui peut nous orienter vers certaines pathologies.
C'est plutôt bien. Donc, un enfant qui a 4 ans d'âge osseux.
Oui, voilà, un âge osseux en retard, ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance plus important que ne le voudrait l'âge de l'enfant.
Jimmy ?
D'ailleurs, à partir de quel âge on suspecte un retard de croissance ? Est-ce qu'il y a un âge à ne pas dépasser, à partir duquel les traitements sont moins efficaces ? Quel est le bon moment pour venir vous voir en consultation si le pédiatre pense qu'il y a un souci ?
Oui, alors ça dépend vraiment de la situation. C'est vrai que quand il y a un ralentissement franc de la croissance, il n'y a pas d'âge. Hein. Si on détecte un ralentissement, il ne faut pas attendre. Après, de façon un petit peu plus générale, il faut consulter vraiment avant la puberté.
Hein, parce ça, c'est important quand même. Ouais, hein. Après, c'est trop tard.
Après, c'est trop tard. Et même pendant la puberté, c'est déjà un peu tard.
Donc, l'idéal, je ne sais pas, pour un garçon 7-8 ans, c'est bien 10
voilà,
ans
Voilà, 7-8 ans, ouais. En fonction de la situation.
Est-ce qu'on peut amorcer le traitement n'importe quand, même quand la puberté a démarré? Non, c'est trop tard.
Alors, le traitement peut être amorcé n'importe quand, mais son efficacité ne sera pas la même en fonction de l'âge auquel on le met en route.
On va y venir. Docteur Amouyal, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, Mélanie Amouyal. Vous êtes donc médecin pédiatre endocrinologue à Paris et à l'hôpital Robert Debré. On parle des enfants aujourd'hui qui ont des problèmes de croissance. On va s'arrêter sur ceux qui, plus précisément, ont un problème qui ne sécrètent pas peut-être assez d'hormones de croissance. Une fois qu'on a fait le bilan dont on a parlé tout à l'heure, comment on prend en charge ces enfants trop petits dans votre cabinet?
Oui, alors juste sur le bilan va pas permettre de faire le diagnostic. En général, il faut ensuite des examens un petit peu plus poussés qui se font à l'hôpital. Et donc, effectivement, chez les enfants qui ont un déficit en hormones de croissance avéré, on va proposer un traitement par hormones de croissance.
D'accord. Et ça peut être autant pour les filles que pour les garçons. Vous le proposez aux deux sexes, je veux dire.
Oui, bien sûr. Autant les filles que pour les garçons. Et il n'y a pas d'âge particulier. Chez certains bébés même, où le déficit en hormones de croissance n'est pas isolé, mais combiné à des syndromes, ça peut être dès la naissance.
Et vous faites ça des fois sur des enfants de 3 ans aussi? Parce que bon, à la naissance, quand il y a un problème, je comprends. Mais 3-4 ans, on se dit, bon, ils sont petits encore.
Ça peut, ça dépend vraiment de la cause, mais ça peut. Oui,
d'accord.
Oui.
Jimmy?
Du coup, on remplace cette hormone de croissance, on va la porter de façon artificielle, mais sous quelle forme? Comment est-ce qu'on donne à un enfant une hormone de croissance?
Alors, l'hormone de croissance, elle se donne que d'une seule façon, c'est par des injections quotidiennes.
Quels sont les enfants, juste on revient sur les indications quand même précisément, quels sont les enfants pour qui c'est vraiment indiqué?
Alors, les indications qui ont ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ce sont effectivement les déficits en hormones de croissance avérés. Les enfants donc, qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, c'est-à-dire à la naissance, et qui n'ont pas rattrapé ce retard à l'âge de 4 ans et qui restent franchement en dessous des courbes. Et puis ensuite, il y a des causes un peu plus rares, des syndromes génétiques assez particuliers.
Mmh. Jimmy ?
Et du coup, cette hormone, donc, vous avez dit c'est par injection, mais qui l'a fait? Les parents, une infirmière, ça se fait tous les jours, pendant combien de temps?
Oui, alors c'est une technique d'injection qui est simple. Donc en général, c'est initié avec une infirmière, par exemple à l'hôpital, où on montre comment on fait l'injection. Et ensuite, c'est les parents qui prennent le relais. L'enfant, en fonction de son âge, peut aussi le faire tout seul. Et après, de façon un peu plus épisodique, s'il y a besoin, une infirmière peut les faire. Mais en général, ce n'est pas nécessaire.
Vous dites qu'on montre aux parents ou à l'enfant comment on fait ces piqûres-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même? C'est quelque chose de simple. Ça se fait en musculaire, à quel endroit du corps? Avec quel type d'objet? C'est une seringue?
Non, c'est ce qu'on appelle des stylos. C'est
comme les diabétiques un
comme
petit
les
peu.
Diabétiques, ouais. Exactement. Où on met une petite aiguille tout petite. Donc, c'est des injections sous-cutanées.
Donc, dans la cuisse, par exemple? Dans la fesse?
Oui, il y a plusieurs. Ça peut être dans la cuisse, dans les bras. Enfin, ça, on explique bien les zones. Il faut bien varier les zones sur lesquelles on fait les injections.
Pourquoi il faut varier?
Parce que si on fait toujours au même endroit, il peut y avoir des petites boules qui apparaissent sur la peau qui fait qu'ensuite le produit est moins efficace.
D'accord. Jimmy ?
Et du coup, on continue le traitement plusieurs mois, plusieurs semaines. Quand est-ce qu'on décide d'arrêter en se disant, ça y est, il a rattrapé un couloir, puisque si on manque d'hormones de croissance, il n'y a pas de raison que ça soit synthétisé de nouveau. Donc, est-ce qu'on continue jusqu'à l'adolescence ?
Alors, oui, c'est vrai que le traitement par hormones de croissance, quand on le met en place, c'est en général un traitement qui est très prolongé. Donc, on réévalue de toute façon toujours son efficacité au bout d'un an. Mais si c'est efficace, la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui va être mis en place pour toute la croissance, donc plusieurs années.
Vos petits patients en cabinet qui commencent, je ne sais pas, à 7-8 ans, on va dire, ils se traitent jusqu'à 17 ans, par exemple? Ça peut être 10 ans de traitement, c'est possible?
Ça peut, oui, c'est tout à fait
possible. En moyenne, c'est combien dans votre cabinet, la durée maximum, on va dire?
Non, ça dépend vraiment de l'indication et de l'âge auquel on met le traitement. Mais c'est vrai que moi, je préviens toujours que quand on le met en route, en général, c'est pas une fois qu'on a rattrapé, parce qu'on a une efficacité sur la première année, l'enfant va rattraper. En fait, il ne faut pas arrêter, parce que sinon, on perd le bénéfice.
Il ne va pas rapetir, l'enfant, quand même.
Non, mais il va grandir moins vite et on va perdre le bénéfice de ce qu'on a fait avant.
Jimmy ?
Parce que du coup, avec un traitement par hormone de croissance, on peut espérer avoir une croissance normale du coup et avoir finalement une taille normale en termes de fréquence.
Oui, alors encore une fois, ça dépend vraiment de la cause du retard de croissance. Dans les vrais déficits en hormones de croissance profond, oui, on peut espérer rattraper une taille tout à fait normale si le traitement est mis en route à temps.
Est-ce qu'on peut préciser quelque chose d'important pour nos auditeurs? Elles contiennent quoi, ces piqûres d'hormones de croissance? Parce qu'il y a eu une grande polémique il y a quelques années sur les hormones de croissance qui étaient prélevées sur des cadavres. Aujourd'hui, c'est quoi? Il y a quoi comme produit à l'intérieur?
C'est de l'hormone de croissance, mais complètement synthétique. Donc, il n'y a plus aucun risque de maladie de Creutzfeldt-Jakob, comme il y a eu le scandale dans les années 80.
Bien sûr. Jimmy?
Est-ce que sur le moyen ou long terme, il y a des effets secondaires, sans parler de maladies graves, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on doit surveiller quand on est traité comme ça?
Oui, alors il y a des choses que nous, on surveille. Alors, à l'initiation du traitement, il peut y avoir des signes assez mineurs, mais qu'il faut signaler pour voir comment on fait, comme des maux de tête, des réactions à l'injection du produit, des petites allergies, des choses comme ça. Ensuite, on surveille toujours régulièrement le taux de sucre dans le sang. Parfois, c'est rare, on peut avoir des petites anomalies à ce niveau-là. Et puis, on surveille de façon un peu plus rapprochée les pathologies de la croissance, notamment la scoliose. C'est pas le traitement par hormone de croissance qui va donner la scoliose, mais il faut surveiller puisqu'on accélère la croissance. Et enfin, quelque chose d'un peu particulier qui de base est rare, mais un peu plus fréquent chez les enfants traités, c'est ce qu'on appelle l'épiphysiolyse de la tête fémorale. Donc c'est un problème de hanche qui peut survenir.
Sur le long terme, est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'on sait si ça peut provoquer des pathologies diverses et variées chez ces enfants?
Alors, je sais que c'est un sujet délicat. C'est un grand débat. On commence à avoir un peu de recul. Après, c'est un peu difficile de mettre en évidence parce que les indications sont tellement vastes et les enfants ont parfois des pathologies préexistantes, donc forcément
ça biaise un peu les
résultats. Globalement, les études sont un peu contradictoires. Il y en a qui disent qu'il peut y avoir une mortalité peut-être faiblement augmentée chez les enfants qui ont été traités, d'autres qui disent que non. Donc je pense que il faut savoir que c'est pas un traitement anodin, mais il y a rien qui ressort de façon très évidente aujourd'hui.
Juste pour terminer, ces enfants, ils peuvent espérer récupérer combien de centimètres, par exemple? Ils grandissent tout de suite, l'efficacité, elle est immédiate? Ou est-ce que
elle est assez rapide, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, si on n'a pas d'efficacité, c'est que avec une bonne observance, c'est que a priori le traitement n'en aura pas plus tard. Pour le gain de taille, c'est vraiment ça dépend de l'indication. Comme je disais, les déficits profonds en hormones de croissance, on s'attend à rattraper une taille normale. C'est un peu moins clair chez les enfants, par exemple, nés petits pour la gestationnelle.
Merci beaucoup, docteur Amouyal, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a compris. Donc, finalement, par rapport déjà au nombre de parents inquiets à cause de la taille de leur enfant, seul un tout petit nombre ont réellement un problème. Et puis surtout que pour cela, il existe des solutions. Merci encore.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Il est toujours fidèle au poste, évidemment, c'est le docteur Jimmy Mohamed, prêt à accueillir tout de suite Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et qu'aujourd'hui donc vous allez répondre à cette question de Juliette. Je vous la lis. J'ai remarqué depuis un moment que lorsque je fais l'amour avec mon compagnon, je ne suis pas concentrée et je pense à d'autres choses comme mes rendez-vous professionnels et les tâches ménagères. J'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. Comment faire pour profiter pleinement du moment? Je pensais qu'elle a demandé comment faire pour pas qu'il s'en rende compte, mais non, c'est pas ça. Alors Catherine, est-ce que c'est fréquent les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui pensent à autre chose pendant qu'ils font l'amour?
Eh oui. Oui, bien sûr, parce que il y a, même si on aime son partenaire, il y a des tas de raisons de fuir le temps de la sexualité parce que justement, ça invite à une émotion qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir, à un partage que l'on n'est pas toujours prêt à accueillir. Parfois, on a beau être avec l'autre, on a envie de le fuir ou on a envie de fuir ce qui va se révéler entre nous. Donc du coup, bien sûr que toutes les occasions sont bonnes pour trouver des petites échappées par des pensées qui vont tout d'un coup là où est notre préoccupation, qu'elle soit professionnelle ou de l'intendance d'un foyer, par exemple.
Mais parfois, ce n'est pas pour fuir la sexualité, j'imagine, que c'est aussi juste parce qu'on pense au ménage. C'est ce qu'on appelle la charge mentale des femmes, notamment.
Oui.
Ce n'est pas qu'on veut fuir la sexualité, mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses à penser que c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire.
Alors, je ne disais pas fuir la sexualité par une volonté consciente de fuir la sexualité, mais d'une volonté tout à fait inconsciente. C'est-à-dire qu'on hiérarchise nos urgences et la sexualité n'est pas nécessairement notre urgence, ou si elle est en bonne position, elle suggère des émotions et des charges émotionnelles fortes qui s'adjoignent justement à la charge mentale forte.
Je dois prendre rendez-vous chez le pédiatre, je dois l'acheter du papier quand sont à trois, je dois l'acheter...
Mon Dieu, j'ai oublié ça, puisqu'enfin on se pose dans un lit, alors... C'est vrai, j'ai oublié, etc. Ouais. Ça montre aussi la dichotomie qu'on peut avoir, laisser poser ce corps et le laisser à l'autre pendant que soit on est en balade, en train de faire les courses ou en train de refaire du repassage.
Jimmy, vous qui repassez souvent.
Oui, mais non, pas tellement. Mais je crois que d'ailleurs que votre charge mentale du coup est très importante, Mélanie. Vous avez l'air d'être...
Non, ça va, moi, tout va bien.
Tout va bien, très bien. Est-ce que pour autant on est obligé d'être concentré pour prendre du plaisir? Est-ce qu'on a le droit de penser à autre chose et finalement que tout se passe bien? Et même peut-être que l'autre partenaire ne se rend même pas compte de ce qui se passe?
Bah, de toute façon, il arrive des moments où on pense à autre chose, voire à quelqu'un d'autre, sans que ce soit...
Ça, hein, quelqu'un d'autre...
C'est pas la question.
Qu'elle pense aux courses qu'au voisin.
C'est un avis très personnel.
C'est rassurant.
Mais, en l'occurrence, mais c'est pas nécessairement fait sciemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement identifié. C'est une situation sexuelle qui peut amener justement à une liberté sexuelle dont profite pleinement le partenaire avec qui l'on fait l'amour. Donc en fait, c'est assez compliqué parce que notre cerveau fonctionne tout seul. Il n'est pas toujours, on le guide pas, on le dirige pas dans une direction tout le temps avec une concentration absolue. Il y a des moments où on y parvient, on est vraiment dans ce qui se joue et puis tout d'un coup, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que je devrais me lever? Est-ce que je peux continuer à faire l'amour? Tiens, il y a les voisins encore qui rentrent à point d'heure. Vous voyez, tous ces moments où on est sorti de la situation sexuelle par des préoccupations à l'extérieur. Mais après, évidemment, plus on a du plaisir dans ce qu'on est en train de vivre, plus on y revient. Et c'est vrai que c'est difficile en permanence. Hein, quand nous parlons les uns et les autres, on est attentifs les uns aux autres. Et puis de temps en temps, hop, il y a une mouche qui est passée, notre pensée est allée ailleurs. Et plus on est attentif à ce qu'on est en train de vivre ou dans la nécessité d'y être, plus on va ramener notre conscience à la situation. Mmh. Et c'est vrai que nous avons, dans notre société, beaucoup de choses à penser, que nous voulons être sur plusieurs tâches ou plusieurs endroits à la fois, et que nous peinons, d'où le fait que l'on parle beaucoup de prise de conscience de l'ici et maintenant, que l'on parle beaucoup de slow sex, pour être dans l'ici et maintenant, être dans son corps et être dans la relation à l'autre, pour le meilleur de la relation et le plus de jouissance.
Qu'est-ce qu'elle doit faire alors, Juliette, qui nous pose cette question? Elle dit, je crois qu'il s'en est rendu compte, comment faire pour profiter pleinement du moment? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil très pratique, peut-être?
Alors déjà, si elle croit qu'il s'en est rendu compte, ça veut dire qu'elle l'observe lui, plutôt d'être à l'intérieur d'elle. Je crois qu'il faut qu'elle réalise que ce n'est pas parce qu'il s'en rend compte qu'il faut qu'elle rectifie un peu le tir. Je crois que c'est qu'elle réalise qu'elle, n'étant pas là-dedans, il y a des choses qui ne se vivent pas. Et donc, du coup, ce n'est pas une grande invitation pour elle. Elle est là un peu au service de son partenaire. Et donc, ce qui est important, c'est justement qu'elle écoute, qu'elle se mette à l'intérieur de son sexe, qu'elle écoute ce sexe parler, ce sexe réagir, ce sexe s'émouvoir, ce sexe bouger, pour que justement elle soit au rendez-vous de ce qui se passe, pas au rendez-vous de lui, au rendez-vous d'elle, parce que c'est ça qui est important, c'est pas pour son compagnon, et plus elle sera à son rendez-vous, plus elle sera dans le lien de qualité avec lui.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire tous les jours sans se la raconter, et moi je vous dis à très vite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.